Clara Le Coq-Réal, bonjour.
Bonjour à tous. La commission d'enquête parlementaire réclame un meilleur contrôle des industriels en France. 6 mois après la découverte de lait infantile contaminé au salmonelle chez Lactalis, cette commission doit rendre son rapport aujourd'hui et son président Christian Hutin en a déjà dévoilé les principales conclusions ce matin. Il assure qu'il faut contrôler les contrôleurs et contrôler les contrôles, toucher si besoin au portefeuille des industriels qui ne respecteraient pas une forme de déontologie et de rigueur sur les autocontrôles, vérifier d'ailleurs l'indépendance des contrôleurs, et puis mettre fin à la guerre des polices en créant une autorité unique dans le domaine de la sécurité alimentaire. Aujourd'hui, elles dépendent de 3 ministères, la santé, Bercy et l'agriculture. Et Christian Hutin évoque une armée mexicaine. Ce matin, chez nos voisins de France Info, le ministre de l'Agriculture, Stéphane Travert, a commenté ses préconisations. Il reste réticent sur la fusion des directions, mais Stéphane Travert soutient l'élargissement des autocontrôles.
Aujourd'hui, les autocontrôles qui sont positifs sont remis au service vétérinaire
de l'État.
Et nous avons choisi de faire en sorte que les autocontrôles qui portaient sur les produits nous allons rajouter des autocontrôles qui portent sur l'environnement du produit. La salmonelle Agona qui a été trouvée dans l'usine Lactalis de Cran était sur un balai et donc nous avons besoin d'élargir le champ d'investigation. La commission d'enquête préconise un certain nombre de choses. Moi, je pense que tout ce qui va dans le sens où nous aurons des contrôles plus efficaces, où nous aurons des contrôles qui soient pertinents sur l'ensemble du territoire, où nous contrôlerons mieux, où nous travaillerons mieux avec les entreprises qui doivent nous donner aussi les résultats de leurs autocontrôles, ira dans le bon sens.
Stéphane Travert avec Alexis Morel. Les débats ont été houleux hier soir à l'Assemblée nationale lors de l'examen de la réforme constitutionnelle. Socialistes et membres des Républicains veulent notamment inscrire dans la Constitution le mode de scrutin actuel ou prévoir un minimum de représentation démographique des députés. Tout cela alors que la réforme des institutions doit-elle être examinée à la rentrée et que la baisse du nombre de parlementaires ainsi que l'introduction d'une dose de proportionnelle figurent parmi les mesures phares de ce futur texte. Débat d'autant plus électrique que les députés vont une fois encore devoir siéger tout le week-end au vu du nombre d'amendements qui restent à examiner à propos de ce projet de loi. Il en reste plus de 1800 sur les 2400. Incompréhension dans les rangs de l'opposition notamment, car début juin, le président de l'Assemblée, François de Rugy, avait annoncé son intention de ne plus programmer de séance les samedis et les dimanches. Stéphane Robert.
Ils n'en sortent pas les députés, ça devient désormais systématique. Depuis quelques mois, chaque projet de loi donne lieu à des débats interminables qui se prolongent le week-end. Et celui concernant la révision de la Constitution ne fait pas exception, ce qui a donné hier l'occasion au député Les Républicains Raphaël Schellenberger d'interpeller la présidente de séance, Carole Bureau-Bonnard.
Ça nous surprend parce qu'en pleine session extraordinaire, voilà qui rompt avec l'engagement pris par le président de ne plus faire siéger notre Assemblée le week-end. Voilà, je pense qu'il serait nécessaire que cette décision soit explicitée à notre Assemblée et que nous puissions en débattre.
Je vous remercie. Au vu du nombre d'amendements qui étaient proposés, il avait été aussi proposé une autre organisation qui n'a pas été retenue. Eh bien là, nous allons donc ouvrir le week-end et n'anticipez pas sur la fin de nos débats. Nous verrons ensuite par rapport à la fin de semaine.
Eh oui, car au rythme où vont les choses, il resterait près de 90 heures de discussion. Les débats pourraient donc se poursuivre au-delà du week-end et retarder d'autant le départ en vacances des parlementaires. La majorité et le gouvernement accusent l'opposition de faire de l'obstruction en déposant beaucoup trop d'amendements. Les députés, les Républicains, communistes, Nouvelle Gauche et la France Insoumise répondent que c'est au contraire le rythme, beaucoup trop rapide, imposé par l'exécutif qui pose problème, avec des réformes qui s'enchaînent sans qu'on laisse le temps nécessaire au débat des parlementaires.
Après Pimki, c'est une autre enseigne du groupe de prêt-à-porter Muliez qui est menacée. Happy Chic devrait supprimer 466 postes et fermer 90 magasins des marques Brice, Bisbee ou encore Jules. Un plan de restructuration va s'appliquer d'ici 2020. La direction explique lutter ainsi, entre autres, contre la concurrence du commerce en ligne. Un accord est conclu en Syrie pour évacuer deux localités chiites assiégées par les rebelles. En échange de la libération de 1500 prisonniers du régime, les 7000 personnes qui vivent dans ces deux zones au nord-ouest du pays seront donc évacuées. Pour le moment, aucune date n'a été communiquée. Et pendant ce temps, les raids aériens continuent au sud du pays. Cette nuit, au moins 12 civils ont été tués sur l'ultime ville rebelle de la province de Dera, à Nawa, la Syrie où des journalistes sont pris au piège en ce moment, selon l'ONG Reporters sans frontières. Elle évoque 69 professionnels en grand danger et appelle donc l'ONU ainsi que les pays voisins à les aider puis à les accueillir. Christophe Deloire, le secrétaire général de RSF, l'évoque au micro de Clotilde Ravel.
Il est important que les États voisins, d'autres États, l'ONU en tant que telle, jouent un rôle pour sauver la vie de ces journalistes qui sont en situation extrêmement périlleuse dans une zone qui est en train de se réduire parce que le régime de Damas est en train de reconquérir le terrain et est évidemment très menaçant pour ces journalistes qui n'ont pas diffusé la propagande du régime. Sur le terrain, chaque heure compte. On attend que les États voisins se mobilisent, à commencer par la Jordanie et par Israël, et que d'autres États prennent des engagements pour le cas échéant accueillir plus tard ces journalistes, parce que il y a deux étapes. Il y a assurer leur sortie aujourd'hui de cette zone où ils sont en grand danger. Ensuite, faire en sorte qu'ils puissent être accueillis, éventuellement dans d'autres pays que la Jordanie et Israël, notamment en France par exemple. C'est une mobilisation large qui est aujourd'hui nécessaire pour permettre dans l'urgence à ces journalistes de sortir.
Au Nicaragua, les forces de sécurité tentent de réprimer la contestation à Masaya, à l'ouest du pays, épicentre des manifestations qui secouent le Nicaragua depuis 3 mois. La police anti-émeute et des paramilitaires lourdement armés sont entrés hier soir dans la ville. Ils en bloquent les accès, des coups de feu ont été entendus, 2 personnes au moins ont été tuées selon les habitants sur place. Et sur Twitter, un haut responsable religieux appelle le président Daniel Ortega à arrêter ce massacre. Il y a désormais plus d'arrivées de migrants sur les côtes espagnoles que sur les côtes italiennes. C'est l'Organisation internationale pour les migrations, une des agences de l'ONU, qui vient de le certifier. L'Italie a tout fait pour réduire au minimum les flux migratoires vers ses frontières maritimes, en passant des pactes avec les gardes-côtes libyens notamment. Et dans le même temps, le passage par le détroit de Gibraltar a explosé, Mathieu de Taillac.
18 000 migrants sont arrivés en Espagne par voie maritime depuis janvier 2018. C'est près du triple que sur la même période l'an dernier. Et c'est 200 personnes de plus qu'en Italie. Précisons enfin que sur le total des routes par la Méditerranée, 2 fois moins de migrants sont arrivés en Europe qu'en 2017. L'Espagne redevient donc une route habituelle pour les réfugiés et les migrants. Et cela rappelle les chiffres records de 2006, avant que Madrid ne passe des accords avec les pays d'origine. Le nouveau chef de l'exécutif, Pedro Sanchez, s'est fait connaître en accueillant les 629 migrants de l'Aquarius, que l'Italie ne voulait pas recevoir. Ces derniers sont désormais répartis sur la géographie espagnole, ainsi qu'en France, pour les 80 qui ont demandé l'asile. L'opinion publique espagnole est en Europe l'une des moins hostiles aux migrants. En 2016, l'Eurobaromètre posait la question suivante aux Européens. Mon pays doit-il aider les réfugiés ? Avec 78% de réponses positives, contre 59% en France et 43% en Italie, l'Espagne se situe à la 7e place des pays les mieux disposés à leur égard.
Mathieu de Taillac pour France Culture depuis Madrid. Un grand soleil sur tout le pays, sur toute la France, excepté sur le quart sud-ouest aujourd'hui, où les pluies ce matin pourraient tourner à l'orage dans l'après-midi sous la chaleur estivale. Comptez 20 à 25 degrés au nord de la Loire ce matin, 24 à 29 sur le sud et un pic à 34 degrés dans le Gard cet après-midi. Midi.